Bonjour à tous. Et vraiment bien content de vous revoir pour ceux que j'avais déjà connus il y a quelque temps et de vous voir pour les nouvelles personnes. C'est vraiment une grâce de Dieu de revenir ici et c'est beaucoup d'émotion pour moi. Et donc je suis Daniel Yabo, comme il a dit. Je suis ivoirien d'origine. J'étais ici avec le bout du gouvernement ivoirien. Quand j'étais ici, j'ai étudié. Ensuite, je suis rentré chez moi quand j'ai fini les études. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire pour le gouvernement, puis ensuite pour un privé. Et puis, on va vous raconter la suite tout à l'heure. Donc, je laisse la parole à
Rachel. Je suis Rachel Yavo, c'est mon époux. On est mariés depuis 90. On aura 32 ans de mariage le 22 décembre. On a trois enfants. Deux garçons et une fille. Il y a deux qui sont mariés. Il y a un qui n'est pas encore marié. Donc, on bénit le Seigneur.
OK. Quand Bernard a dit de passer ici pour présenter quelque chose, j'ai dit, moi, je ne suis pas un grand prédicateur à la TDJ, crier, bon. Ensuite, j'ai dit, je lui ai demandé, combien de temps on a? Et il dit, autour de 30, 40 minutes. Et puis hier encore, quand il a demandé, j'ai dit, hier encore, il m'a reposé la question, j'ai dit, je vais te raconter une histoire. Il y a un prédicateur qui avait été invité dans une église. La première fois, il a prêché 10 minutes. Et quand il est revenu la deuxième fois, il a prêché 30 minutes. Ah. Et quand on l'a invité la troisième fois, il a prêché 1h25. Ah. Et donc le pasteur qui l'a invité a demandé, au fait, comment ça se passe avec toi? Il dit, la première fois, j'ai prêché sans mot dentier. Sans mot dentier, la première fois. Donc j'ai prêché juste 10 minutes. La deuxième fois, j'avais mis mon dentier, donc j'ai prêché normal, 30 minutes. Mais il dit, et la troisième fois? Il dit, j'ai prêché avec le dentier de ma femme. c'est juste pour l'ambiance. Donc, ce matin, moi, on est équilibré. Hein, je suis là, elle est là, donc c'est équilibré. OK. En tout cas, vraiment, c'est difficile de trouver un message ou un passage un message pour les 40 ans d'œuvre de Dieu dans nos vies. Et vraiment, nous bénissons Dieu parce que je dirais à quelqu'un qu'il y a eu plusieurs saisons. Et dans chaque saison, nous avons vu la main de Dieu. C'est comme, dirait un prédicateur, et c'est aussi un motivateur, Samson, il disait... Quelqu'un lui a demandé, il dit une fois à sa femme, il dit, c'est Sam, il est comment chez vous à la maison? Il a dit, Sam, ça dépend de quel Sam vous parlez. Il dit que j'ai des fois l'impression d'avoir marié cinq maris, mais c'est-à-dire à chaque saison, le mari, il avait un témoignage. Donc, ici, nous avons, ici, vous voulez vous présenter juste, disons que nous n'allons pas aller retourner très, très loin. Nous allons juste présenter des événements qui se sont passés récemment et nous allons vous partager la main de Dieu. Tu veux ajouter quelque chose? Ok. Donc elle va rentrer dans les jeux tout à l'heure. Donc, en tout cas, merci, pasteur. Merci. Et j'ai vu ces images tout à l'heure, je vais un peu revenir là-dessus parce que c'est très important pour nous. Et ce matin, hier encore, quand on avait partagé à table avec Bernard et Daniel, ma femme elle disait, il voit la vie chrétienne comme nous. J'ai dit non, c'est nous qui voyons la vie chrétienne comme eux. C'est lui qui m'a tout appris. Tu vois. Et vraiment, merci beaucoup à Daniel et à Bernard pour cette semence dans ma vie. Et vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Donc, pour revenir à quelques points, nous avons pris quelques trois points que nous voulons partager avec vous. La foi en Dieu quand on ne comprend pas. Et ça, c'est le premier point. Et pour cela, nous avons eu comme verset de soutien à ça. Nous avons, nous avons vu nous avons pensé au psaume 126. C'est le psaume que nous avons, le psaume 126, verset 3. C'est le psaume que nous avons utilisé, c'est le verset que nous avons utilisé sur notre carte de mariage. Mais je vous dis que vraiment c'était prophétique, on ne le savait pas, mais ça nous a suivi toute notre vie. Et vraiment, Dieu a opéré beaucoup de prodiges au travers de cela. Quand on ne comprenait pas, psaume 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Vous pourrez lire tout le psaume, et la suite dit l'Éternel, le verset 4, l'Éternel ramena les captifs de Sion comme un ruisseau dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant porte la semence avec allégresse. En 2010, je commence la première partie. En 2010, nous avions nous servions dans l'église dans laquelle nous étions, l'église locale. Nous avions une maison dans laquelle nous accueillions un peu tout le monde, comme j'ai dit, comme mon mentor. La maison n'était pas loin de l'église, donc c'était une porte ouverte. Les gens venaient à midi, ils mangeaient, ils s'en allaient. On recevait aussi pas mal de personnes dans la maison. Il y avait des étudiants qui étaient de passage. Il y avait un lycée juste derrière chez nous et une grande école. Donc, nous recevions des gens là. Et aussi, deux fois, nous avons reçu des réfugiés de guerre. Bon, l'autre était un Libérien. Et là, oui, c'est ça. Et Centrafricain. Et puis une autre de Congo pendant qu'il y avait le trouble dans leur pays. Et ces choses-là, nous le faisons naturellement. Et donc, et puis, en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils peuvent se rappeler que depuis 2001, nous avons eu une crise qui allait en s'amplifiant. Et puis, vers 2010, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Et on nous a dit qu'à cette époque, ça commençait à être difficile parce qu'on était proche des élections et les tensions étaient très vives. Et nous avons donc pris sur nous, dit, bon, on va peut-être aider les enfants. Peut-être qu'un jour, ils vont nous reprocher de n'avoir pas utilisé cette opportunité de leur permettre d'aller apprendre quelque chose ailleurs. Et puis, bon, on a mis tout ensemble. On est allé voir l'ambassade. On a fait tous les papiers qu'il fallait. Et puis, voilà, on est sur la route pour les États-Unis. On nous dit seulement que madame, elle ne peut pas venir parce qu'il y a des papiers administratifs à remplir. Quand on sera là-bas, je dois. Mais elle était sur la liste de partants. OK, donc, j'arrive là-bas et puis, un mois après, je retourne à l'immigration. Je leur dis, bon, voici, je suis venu pour prendre tel papier. Et là, je m'entends dire que, oh non, la loi a changé. Et le papier que tu devais prendre là n'existe plus. Donc, voilà. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a un autre papier qu'il faut remplir. Je dis, oui. Et c'est comment? On dit, non, le papier que tu dois remplir, ça doit mettre 5 ans pour que ta femme te rejoigne. Vous voyez? Et ma collègue, qui est une amie à Rachel depuis près de 15 ans, 20 ans, elle a dit qu'elle n'a même pas osé me regarder parce qu'on était ensemble dans la salle. Parce que si elle me regardait, elle allait tomber en sanglots. Elle dit, mais c'est moi, je les ai encouragés à venir ici et puis je vais briser leur foyer, je vais briser leur maison, je vais tout séparer. Tu veux parler un peu maintenant?
Okay. Alléluia. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, on doit s'appuyer sur la parole. Et lorsqu'il est parti et qu'il m'a annoncé ça, vraiment, j'étais désespérée, mais je me suis ressaisie. Parce que comme je dis, on a le psaume 126, c'était le psaume de notre mariage. On a pris ce psaume, mais après, quand je l'ai relu, j'ai vu que c'était notre vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Dieu est notre Père. Il y a des promesses que tu fais à tes enfants. Donc, si les parents faillent, tu dis non, tu as dit ça dans ta parole. Et dans ces moments de situation difficile, en tout cas, je me suis appuyée sur la parole de Dieu. Et j'étais dans le groupe d'intercession. Donc, il y a des sœurs, vraiment, on a intercédé. Et dans ces moments difficiles, tu t'appuies sur le Seigneur. Parce que tu ne peux pas t'appuyer sur un homme. La Bible dit que malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc, dans ces moments difficiles, j'ai appris à reconnaître Dieu, à savoir qui est Dieu, les noms de Dieu. Je me suis appuyée sur ça. Et avec les sœurs en Christ, on a commencé à intercéder. Et j'espérais toujours. Et il y a le Jean 14 qui dit que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ça, c'est mon verset. Donc, chaque fois que je n'avais pas mes repères, je dis, Seigneur, tu dis que tu es la vérité. Donc, tout ce qui est nuance, tous les mensonges qui complotaient, vraiment, il faut établir la vérité. Tu dis que tu es le chemin. Montre le chemin à Daniel là-bas. Et moi, montre-moi le chemin. Et pendant que j'étais là-bas, en temps, il y a eu la guerre. Donc, je suis partie. Je voulais dire que ma famille et moi, vraiment, c'était une famille. C'était l'harmonie. J'ai reçu des pasteurs. J'avais des cellules dans ma maison. Souvent, je faisais à manger. On invitait les gens dans la rue comme ça. On dit, bon, venez manger. Et puis, venez manger. Pour dire que toute semence qu'on donne ou bien toute semence qu'on fait, en tout cas, on va y arriver là-bas. Donc, ils sont partis et je me retrouve au Ghana. Je suis partie au Ghana puisqu'il y avait la guerre. Je me retrouve au Ghana et je me retrouve avec... Il y a une servante de Dieu, son mari est parti aux États-Unis, donc il l'avait presque abandonné. C'est nous, on l'a aidé à payer sa maison, on l'a aidé à scolariser ses enfants. Tout ça, c'était des semences qu'on a fait. Et quand je suis arrivée au Ghana, vraiment, je me suis assise sur le lit. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Et je dis au Seigneur, quel que soit ce que je peux faire pour une personne, donne-moi de ne jamais murmurer et de le faire avec mon cœur. Et après, je suis partie au camp des réfugiés. Là-bas encore, le Seigneur m'a amenée à pouvoir aider les gens qui étaient au camp à apporter la parole, à partager beaucoup de choses. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça a été une expérience. Quelqu'un, tu as ton lit, tu es bien, tu te retrouves au camp, vous dormez à terre. C'est une autre vie. Donc, le Seigneur m'a montré encore une autre vie. Bon, je vais lui passer le micro, je vais continuer.
Donc, avant de continuer, comme vous avez vu, on était séparés. Et là, ce matin, je vais profiter pour rendre hommage aux mamans, à nos dames ici. Donc, j'ai appris à faire la mère. Et je vous assure que c'était une autre vie pour moi. Je dois apprendre à préparer. Je dois apprendre à m'occuper des enfants. Ils sont allés à l'école, ils reviennent. Bon, en tout cas, ce que nos mamans faisaient, j'ai appris à faire ça. J'ai appris à respecter beaucoup plus les dames pour leur dévouement. Et merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Et oui, c'est vraiment du boulot. Tant que les enfants... Non, ils sont, vraiment, j'ai appris à vous admirer. Merci. Donc, ceci étant, nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons aussi vu aussi la valeur de l'amitié pendant des moments difficiles. Et je pense que ce que notre frère a partagé ici pour nous aider, par exemple, qui pourrait aider, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et là, nous avons vu aussi qu'avoir des amis, des gens qui viennent vous donner des conseils quand vous avez des moments difficiles, vous encourager, c'est important. Si nous avons des gens autour de nous qui ont des difficultés, il faut les encourager et non pas les écraser. Je pense qu'elle a vécu une occasion, une situation là-bas pendant que je n'étais pas là. Je peux la raconter comme j'ai le micro et puis la corriger après. Et donc, elle disait que quelqu'un comme une dame de l'église, sortant de l'église, vient dire, oh, ton mari, il t'a abandonné. Je suis sûr, j'ai des sources qui disent que ton mari, il ne viendra plus, hein, il faut l'oublier. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire quand quelqu'un a une difficulté. Si nous n'avons aucune information, nous taisons et puis nous prions et nous attendons que Dieu fasse son œuvre. Et ça, c'est la meilleure façon de faire. De l'autre côté, on a eu vraiment des amis. Ah,
okay. Je veux corriger quelque chose. Quand la sœur est venue me dire ça, j'ai dit, ce n'est pas mon mari. Donc, il faut chercher, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais sinon, si c'est mon mari, là, ce n'est pas mon mari. Donc, je lui ai dit ça, parce que ce n'était pas correct. Donc, j'ai corrigé ça.
OK, donc, tu as vu. Donc, tu avais la confiance qu'elle avait. OK, donc, ici... Nous avons eu vraiment des amis qui nous ont encouragés aussi. Et ça, c'est pour ça que je souligne ce point-là. Il est important d'encourager ceux qui sont dans les difficultés, de prier avec eux, comme la parole nous dit, de supporter ceux qui sont dans les difficultés. Et des gens nous ont vraiment encouragés de part et d'autre. Pas par leurs dons, de par leurs conseils, ils nous ont vraiment dirigés. Et ainsi, nous avons aussi pu toucher des autorités, de par des conseils d'amis qui nous ont dit, ah, pour telle situation, il faut peut-être t'adresser carrément à ton congressman, ton représentant. Et nous avons adressé plusieurs courriers. Et vraiment, Dieu a agi. Nous ne savons pas vraiment de quelle façon il a fait, mais il a touché le cœur de quelqu'un. C'était justement le conseil d'une amie. Elle a dit, Daniel, reste tranquille. Dieu va toucher la bonne personne au bon moment pour vous sortir de cette situation. Donc, j'étais en train de donner à chercher à manger pour les enfants parce qu'il fallait que je mette le pain sur la table. J'étais quelque part au Congo, sur le fleuve Congo, là-bas, dans le Kivu, et en plein milieu du fleuve, là, en train d'aller vers... Je passais de Goma à Kivu, ces deux villes qui ne sont pas très loin. Et puis, en ce moment, ma femme, elle se trouvait au Ghana. Et puis, les enfants sont aux États-Unis. Donc, j'ai carrément éclaté en sanglots. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Je suis au milieu de l'eau ici, ma femme est d'un côté, la famille est complètement éparpillée, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis là, quand j'ai fini la mission, je suis rentré, c'était en juillet, je crois. Et puis, à peu près un an après qu'on s'est séparés, et puis les enfants disent, ah papa, voilà, on a vu un courrier, on pense que ça c'est pour maman. J'ai dit, ah, mais vous avez un courrier pour maman, il faut le donner à la tante, la tante pour qu'elle l'ouvre, parce que moi, je n'étais pas là pendant un mois. Donc, c'est là que les officiers nous ont appelés et ils m'ont dit que l'immigration, c'était une dame. Elle dit, raconte ton histoire. Je raconte. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, reprends. Je raconte. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, raconte. Je raconte. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, parce qu'en fait, elle ne comprenait pas pourquoi on l'avait bloqué. Elle dit, mais ça ne fait pas de sens, parce que la loi n'existe plus, mais justement parce que la loi n'existe plus, il faut lui remettre ses papiers pour qu'elle rentre. Donc vraiment, cette dame, elle a dit tout simplement, bon, ta femme, elle devait rentrer par la fenêtre et Dieu va la faire rentrer par la grande porte, tout simplement. Donc vraiment, c'est que Dieu a voulu se servir de nous au travers de ces moments-là, et elle était quelque part en train d'évangéliser, de fortifier des gens. Et vraiment... Nous pouvons dire que tu peux ajouter quelque chose si tu veux. Oui, donc nous pouvons dire que toute situation que nous traversons a certainement un but. Des fois, ça peut être compliqué. Des fois, ça peut être sans tête ni queue. Comment est-ce que Dieu nous envoie dans des situations alors que nous étions bien tranquilles dans un endroit? Et les bifurcations que Dieu prend, il faut que nous reconnaissons aussi la souveraineté de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne fait rien au hasard et qu'au bout de la chaîne, il va nous enseigner, il va nous fortifier.
Donc, pour dire que toute semence que nous faisons, c'est vraiment important. Notre amie Kadi, qui était avec elle, elle était aux États-Unis, elle est partie par le Canada. Et lorsqu'elle est partie par le Canada, franchement, on venait de se marier. Donc, elle avait besoin d'argent, de sponsors, tout ça. Et on a donné toutes nos économies. Donc, elle est partie. C'était même pas prévu qu'un jour on se revoie. De là-bas, elle est partie aux États-Unis. Et puis, on s'est retrouvés là-bas. Et là-bas, quand Daniel n'était pas là, c'est vraiment elle qui prenait soin des enfants, qui préparait, qui les aidait. Elle a aidé à trouver l'école. Donc, vraiment... Le Seigneur a permis qu'elle soit à notre disposition. Et quand on devait partir aussi, il était question de maison. Parce qu'aux États-Unis, les maisons sont très chères. Donc, on a dit, on veut une maison. Elle dit, ah, les maisons sont chères. On dit, mais il n'y a pas un quartier pas trop cher, là. Elle a dit, non, que là-bas, si tu es dans une école, dans une zone, tu restes dans l'école où tu vas. Tu ne peux pas quitter ici pour aller dans une autre école. Sauf quand tu es à l'université. Et vraiment, on était là, on dit, mais comment on va faire? Parce qu'on n'avait même pas assez d'argent, j'ai dû vendre toutes mes affaires et tout ça. Et un jour, il a un collègue, Dr Diallo, qui vient et il est à l'hôtel Ibis. Donc, Dr Diallo est venu. Dr Diallo a dit, Daniel, j'ai appris que tu viens aux États-Unis. Où tu vas habiter? Daniel a dit, bon, pour le moment, on n'a pas de maison. Et puis, il a dit, bon, comme ça que je peux vous donner ma maison. Daniel a dit, ah, tu vois l'argent que j'ai. Mais il n'a rien dit, il a accepté. Et quand on a appelé Kadi, Kadi était déjà aux États-Unis. Donc on l'a appelé. Elle dit, quoi? Docteur Diallo a donné sa maison? Franchement, elle dit, ça c'est un miracle que Dieu a avec nous. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Même dans les plus petits détails, Dieu était là. Et il nous a montré son amour, il nous a montré sa protection, et tout ça, Dieu était là. Je peux parler, Dr John? Non,
okay. Non, je reviens sur ce qui s'est passé avec Dr Diallo. C'était vraiment important parce qu'il faut voir qu'il avait, été à Atlanta, il a travaillé pour la CDC là-bas, pour ceux qui connaissent. Et puis, il est allé à New York où il a eu un autre boulot. Il était consultant pour une autre agence internationale. Et pendant qu'il n'était pas là, sa maison était un peu libre. Il avait juste une chambre qui était occupée par quelqu'un qui était là. Mais il y avait trois autres chambres qui étaient libres. Et une autre chose, c'est que nous avons appris beaucoup plus tard, c'est que lorsque le contrat de Diallo était fini avec ICAP, qui est l'autre agence, il était sans boulot. Et pendant qu'il était sans boulot, au lieu de nous dire, au lieu d'augmenter le loyer chez nous ici, pour qu'on puisse l'aider à payer le loyer, parce qu'il paye, c'est une maison qui paye encore avec la banque. Diallo a pris sur son argent de retraite, le 401k, il a pris sur son argent de retraite pour payer le gap, pour payer la différence, au lieu de nous augmenter le loyer. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et c'est beaucoup plus tard qu'on l'a appris, quand je l'ai appris, j'avais presque les larmes aux yeux, j'ai dit, mais tu ne peux pas comprendre que ce gars-là, il n'est pas chrétien, c'est un musulman. Et Dieu l'a utilisé pour nous soutenir pendant cette période difficile.
Donc après, je suis arrivée aux États-Unis en 2013. Le Seigneur a accompli le miracle et je suis venue aussi. Et il y a la femme de Dr John, un des patrons de Daniel. Lorsque Daniel était au projet, souvent Daniel allait l'aider. Mais il racontait des trucs, il ne comprenait rien. Mais il était toujours là avec ce monsieur. Et donc il était là, et puis on est parti. C'est tous ceux-là qui nous ont encouragés, on est parti. Et quand Daniel est parti à l'école encore. Il a fait une école, et l'école, c'était une école française. Donc c'était la nuit à 2h, 3h du matin. Pendant que les gens prenaient les cours, lui, il fallait prendre les cours aux États-Unis à 2h du matin. Donc je le réveille, je le pousse, je dis, hey, prends les cours. Et quand il a fini, il a dit à Dr John qu'il a fini. Pendant ce temps, en tout cas, Dieu a été fidèle. Donc il a dit à Dr John qu'il avait fini. Donc Dr John a dit, bon, faut traduire ton diplôme et puis viens me voir. Et c'est comme ça que la même boîte aussi d'ici où il travaillait, la même boîte, Dr John l'a fait vraiment rentrer. Et vraiment, c'est une bénédiction. C'est sa semence, il était là-bas, tout ça. Et sa femme, elle déposait des bidons d'huile, des croissants, des trucs. Tu n'as pas idée. C'est les États-Unis, les Américains, ils n'aiment pas trop partager. Je peux manger mon plat, je ne t'invite pas. Yeah. Et vraiment, on a vu la main de Dieu, comme je l'ai dit, avec toutes ces semences. C'est 15 ans après, 20 ans après, que le Seigneur nous a montré tout cela. Et vraiment, je bénis le Seigneur et je lui dis, si j'en ai, qu'il me donne toujours la force de pouvoir donner. Donner, ce n'est pas seulement en argent. Mon mari, quand on était en Afrique, il se moquait toujours de moi. Il dit, je fais les consultances. Les gens peuvent m'appeler à 23 heures. Ils vont m'expliquer leurs problèmes. Je suis là, je vais parler, je vais prier avec eux. Donc, il se moquait de moi. Mais on a vu qu'au-delà de toutes ces choses, vraiment, Dieu a agi dans nos vies, il a agi dans nos circonstances. Et après, quand j'étais là, j'ai eu trois accidents. Vraiment, si vous voyez les voitures, vous voyez que c'est la grâce de Dieu si je suis encore vivante. Parce que j'ai des responsables qui ont piqué des crises de tension, tout ça. Mais Dieu m'a gardée les deux fois. Les voitures étaient totales os, mais moi, je n'ai rien eu. Et ensuite, quelques temps après, mon petit frère, en tout cas, on était très, très, très attachés. Et mon petit frère meurt. Et vraiment, ça m'a affectée. J'étais déboussolée. Tout ça, je dis, mais Seigneur, je fais des accidents. Après, mon frère est mort. Donc, mais toutes ces épreuves, Je vous dis que ça m'a rapproché de Dieu. Parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre tout sur cette terre. Peut-être qu'arrivé au ciel, le Seigneur va nous enseigner ou bien va nous montrer toutes choses. Mais David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc dans toutes ces choses, je me suis rappelée de tout ce que le Seigneur a fait. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai mal au cœur. Tu as dit que tu envoies le Saint-Esprit pour nous consoler. Des fois, quand j'ai mal, j'ai dit, Saint-Esprit, viens pour consoler mon cœur. Parce que en tant qu'être humain, ce n'est pas facile de perdre quelqu'un. Et mon pasteur même est dans l'église où j'étais depuis 20 ans. Après, il est mort avant mon frère. Donc tout ça, ça a été des chocs. Et tous les accidents que j'ai faits, ça a été des chocs. Mais le Seigneur m'a amené encore à consoler d'autres personnes, à pouvoir aider ces autres personnes. Donc tout ce qu'on vit, en bien ou en mal, le Seigneur veut nous faire tirer des leçons. Donc il faut qu'on aille devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois tirer de cette leçon? Donc il faut apprendre vraiment à demander, à entendre la voix de Dieu, demander la voix de Dieu. Comme je l'ai dit, moi, mon verset, le Jean 14, je ne joue pas avec. Quand j'ai besoin de chemin, j'ai dit, Seigneur, montre-moi le chemin. Quand j'ai besoin que quelque chose soit éclairé, j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Donc, même je prends ça aussi, je confesse ça. Je dis, Seigneur, quand souvent les gens m'appellent, ils disent, ils sont malades, je dis, mais prends 10, Jean 10, 10, et puis Jean 14, il dit que le voleur ne vient pour dérober et égorger, mais toi, tu es venu pour que j'aie la vie. Et moi-même, souvent, quand je ne me sens pas bien, je prends Jean 10, 10, je dis, Seigneur, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie, je confesse, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie. Donc, c'est des versets. En tout cas, mais je prends ça, je confesse et je demande la grâce de Dieu sur ma vie. Donc, pour dire que la parole de Dieu est vraie et elle est efficace, elle peut faire beaucoup de choses. Dieu dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire. Donc, sachant que chacun de nous, on a un miracle, chacun de nous, on a quelque chose à faire sur cette terre. Si je veux continuer, amen.
Amen. Je vous ai déjà dit hein, que les femmes, quand elles prennent le micro. Wow. Donc, vraiment, c'est vraiment saisissant ce que. Elle a juste évoqué un peu sur le décès de notre. C'est moi, c'était mon ami, on pensait même qu'on était frère plutôt que beau-frère. Et ça, c'est. C'est assez une épreuve pour nous. Pendant la COVID, personne ne pouvait bouger. Les enfants ont perdu leur mère en 2002. Leur père s'en va en 2020. Et c'était vraiment une épreuve compliquée. Et puis, on ne pouvait pas accéder aux enfants. On ne pouvait pas. C'est là qu'on vient. Avant de venir, on était passé en Italie. Et c'est ce matin que j'ai dit à ma femme qu'on peut aussi partager un peu ce qu'on a vécu là-bas. Et quand on est arrivé, on a avant de venir, sincèrement, j'étais un peu sûr, mais j'étais pas très 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 content des enfants. Ça, je vous dis, j'étais un peu déçu parce qu'ils ont là, j'ai dit bon, comment ils ont géré l'après décès de leur papa, c'était compliqué. Et on avait vu et justement une amie à qui je confiais le sujet avant de venir, je lui ai dit ah que les enfants ils sont compliqués, je n'arrive pas à passer le message avec eux, que je ne sais même pas ce qu'ils font. Entre-temps, ils avaient eu la possibilité aussi d'avoir un peu d'argent de leur grand-père d'Abidjan qui avait laissé des biens et on les avait listés sur ces biens-là. Donc, ils avaient un peu d'argent et ils étaient coupés, ils ne faisaient rien de bon. Donc, elle m'a dit, non, Daniel, il faut te rappeler aussi que nous avons eu aussi des cas ici d'enfants qui étaient compliqués. Et c'était justement Rachel qui l'avait aidé avec un de ses enfants qui était un peu tombé dans des difficultés. Il était même poursuivi par la justice pour des histoires de drogue. Et il était, heureusement, il avait la nationalité canadienne, donc il devait être déporté au Canada. Donc on s'est mis à prier, on a prié au plus bon. Et Dieu a fait un miracle. Lorsqu'ils sont arrivés devant le juge a dit que non, l'enfant ne peut pas être déporté. On dit, comment ça? Il dit, non, il ne peut pas être déporté parce qu'il y a une jurisprudence. Et il y a eu un cas comme ça qui était débattu et le cas est en cours. Et tant que ce cas-là n'a pas été clôturé, on ne peut pas utiliser cette jurisprudence-là pour condamner quelqu'un d'autre. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de prier pour que l'enfant, il était à 3 ans d'être américain, que si en temps il devient américain avant que le premier cas ne soit jugé, en ce moment-là, il ne sera jamais condamné. Donc c'est ce qui s'est produit. Il a eu sa nationalité l'année passée. Et il n'a pas été jugé. Et Dieu a fait grâce, il est redevenu anormal. Il a fini ses études et il travaille. Donc quand elle m'a placardé ça sur la tête, j'ai dit, c'est peut-être vrai. Donc j'ai changé ma pensée en allant en Italie. J'ai décidé d'aller voir les enfants. Et quand je suis arrivé vraiment... C'est toujours un peu pour revenir sur le point que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas juger sans avoir tous les éléments. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des enfants qui avaient été vraiment affectés par le décès de leur père. Ils avaient plus un besoin d'être reconstruits de l'intérieur. Ils étaient complètement déchirés. Et imaginez-vous, tu perds ta mère à l'âge de 2 ans, 3 ans. Elle avait 6 ans, l'autre avait 1 an. Et le troisième était bébé. Et on s'est rendu compte qu'on les avait peut-être jugés trop tôt. Ils avaient besoin d'être reconstruits de l'intérieur. Et je ne sais pas, mais Dieu m'avait poussé à faire. J'ai suivi des cours de coaching juste avant. J'ai fini le cours juste avant de venir ici. J'ai mon premier degré de coaching. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait faire ce cours-là, mais ça m'a énormément aidé. Et quand je suis arrivé voir les enfants, je leur ai dit, vraiment, je leur ai demandé pardon parce que je leur ai dit qu'on vous a jugé trop tôt et trop vite. Et je comprends votre douleur. Je comprends que vous avez plus de peine que nous de vivre à côté de votre père, le soulever, aller à l'hôpital. Dans la période de la COVID, il a eu une attaque cardiaque. Mais dans la période de la COVID, il y avait une seule priorité, c'était les malades de COVID. Donc il est resté et puis ils l'ont débranché après 2 jours, on dit qu'il est mort. Et donc, c'est dire que. Et il est très important d'avoir les bonnes informations quand nous voulons juger, il ne faut pas juger bien sûr, mais avant de voir une situation, prier et soyons proches des personnes si nous ne pouvons pas, simplement prions et demandons à Dieu de nous conduire, de nous aider à aider ces personnes-là qui sont dans l'affliction. Et elle, de son côté, elle pensait que je venais juste pour lui parler d'argent, pour lui parler de comment tu as dépensé cet argent-là. Et je n'en allais même pas parler parce que c'était pas le but. Moi, c'était de reconnecter ces enfants-là et que nous ayons cet échange-là. Et nous avons eu le témoignage après de la dame qui les garde que franchement, on a déclenché quelque chose de nouveau, que les enfants sont revenus à eux-mêmes et nous bénissons Dieu pour cela.
Donc, je complète juste un peu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde nos cœurs aussi. C'est vraiment important. Malgré tout ce que Saül a eu affaire à David, la Bible déclare que David a gardé son cœur pur. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à notre cœur, répandre notre cœur devant le Seigneur et vraiment prier, comme il a dit, prier pour notre cœur, prier pour les attitudes. Ben, souvent quelqu'un te regarde comme ça et puis tu dis, alors que la personne n'a rien à voir, il te regarde. Donc vraiment, il faut qu'on fasse attention au cœur, à notre cœur. Répandre notre cœur devant Dieu et Dieu va donner des solutions. Amen.
Ok, donc je pense qu'on a beaucoup parlé, hein, si on n'a pas fini. Ça peut aller maintenant? C'est combien de minutes qu'il nous reste? Ok, donc j'ai beaucoup d'histoires comme ça, hein, et à faire 2 minutes encore. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour beaucoup de choses que nous avons encore appris de lui et chaque jour il nous enseigne. Et je voudrais ici vraiment encourager chacun de nous. Je ne sais pas par quelle épreuve nous passons, chacun a ses difficultés. Je ne dis pas que c'est aussi facile que ça. Il ne faut pas penser que. Et ça, c'est le chemin que souvent, quand on partage des témoignages, on pense que c'est facile. Mais c'est, quand on le raconte plus tard, on le raconte avec beaucoup plus de liberté. Mais. Au fond, c'est difficile quand on est au milieu, c'est pas facile. Il faut pas tromper les gens. Et ce n'est pas de cache-cache. Je dis tout souvent avec mes amis qui font les campagnes de prière. Ça, c'est chez nous en Afrique, on passe bien. C'est de quoi je parle. Oui, viens, tu déposes 200 euros, je vais prier pour toi, et puis c'est automatique. Hein. Je dis souvent aux gens, Dieu n'est pas dans des cash deals. C'est pas des cash deals. C'est une histoire de foi et la foi profonde. Dieu veut créer quelque chose dans nous. Au milieu de l'épreuve, Dieu veut nous fortifier, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et ce qu'il nous enseigne, c'est toujours quelque chose qui va au plus profond de nous-mêmes. C'est des fois difficile. Et des fois, lorsque nous ne comprenons rien du tout, nous devons toujours croire en Dieu. Et si nous voulons même nous appuyer sur la parole de Dieu, aller plus loin, et c'est la parole qui le dit. Des fois, il y a des versets qu'on n'aime pas beaucoup, mais c'est des versets qui sont dans la Bible. Et quand, dans Hébreux, quand nous lisons Hébreux, qui est le chapitre de la foi, quand nous voyons, la foi, c'est ça, tout le monde le connaît. Mais quand on arrive au verset 13, là-bas, il dit, c'est par la foi aussi qu'ils ont vu ces choses, et qu'ils ont espéré ces choses, mais ne les ont pas vues accomplies dans leur vie. Parce qu'il y a de plus grandes choses qui les attendent derrière, Et c'est ça aussi la foi. Mais nous ne réunions pas du tout la foi. Nous ne disons pas que nous on croit au miracle. On croit au miracle et nous devons prier pour notre miracle tous les jours. On croit au miracle. En même temps, on croit aussi à la souveraineté de Dieu. C'est tout ça qui fait que nous avons la foi en Dieu. Nous prierons toujours pour la guérison des malades. Nous croyons que Dieu nous apporte la guérison. Mais même si nous ne l'avons pas, gardons la foi. C'est ce que la parole nous dit. Même si nous ne l'avons pas, gardons la foi. Ayons confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le fait. Et nous le comprendrons certainement au moment opportun. OK? OK. Donc, nous avons abordé ces deux grands points-là, le point de la foi au milieu des épreuves et aussi le point de la charité. Je ne sais pas si certains ont eu la curiosité de lire le verset que la dame a cité tout à l'heure, Proverbe 11, verset 25. Moi, je suis toujours curieux. Quand quelqu'un cite quelque chose, je viens toujours vérifier pour voir si ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Et la curiosité, parce que souvent aussi, des gens sur Internet racontent des bêtises, hein, ils disent un verset et puis c'est même pas ça. Donc elle dit que l'âme bienfaisante sera toujours assasiée, celui qui arrose sera arrosé. Et vraiment que nous ayons cette foi en Dieu au milieu des épreuves que nous ne comprenons pas, et aussi cette générosité de cœur, sachant que tout ce que nous faisons sera pour notre bénéfice. Et n'ayons pas peur de... J'ai dit que le pasteur Bernard nous a beaucoup inspiré, et c'est l'âme qui bienfaisante sera arrosée, et ne cessons pas d'aider tant que nous pouvons le faire. Et que Dieu nous sera toujours en aide. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si on peut faire une prière. Donc nous allons baisser la tête, nous allons prier. En tout cas, ce matin, je nous invite tous à renouveler notre confiance en Dieu, à renouveler notre foi en Dieu. Même au milieu des épreuves que nous ne comprenons pas, disons à Dieu que nous lui faisons confiance et nous croyons à sa souveraineté. Nous croyons qu'il nous apporte la solution à notre situation. Nous croyons que à cause du salut que nous avons en Jésus, à cause de cette croix, à cause des mérites de Jésus, nous sommes guéris. La parole nous le dit. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous croyons qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous croyons que par son sang, nous sommes renouvelés. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te rendons l'adoration. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, toi-même, tu multiplies, tu amplifies cette parole, Seigneur, qui est incorrecte de ma bouche, de la bouche de Rachel. Mais, Seigneur, tu l'as parfait, Seigneur, pour le cœur de nos frères, pour le cœur de nos sœurs ici présents. Éternel, tu renouvelles notre foi, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, de nous accrocher à toi au milieu de toute épreuve que nous ne comprenons pas. Nous avons confiance que toi, par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu viens nous renouveler nos forces, Seigneur. Tu viens nous donner, Seigneur, la force. Ta parole nous dit que tu ne nous donnes pas de preuves qui soient au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons supporter. Accorde-nous la force par ton Saint-Esprit. Guide nos chemins, guide nos voies. Renouvelle notre foi en toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ton salut en Jésus est totalement parfait. Il est plein pour nous, il est suffisant pour nous. Et nous nous appuyons là-dessus. Seigneur, merci pour cette opportunité d'être ici au milieu des frères et sœurs. Et Père Céleste, nous bénissons, Seigneur, cette église. Nous bénissons les églises qui sont aussi rattachées à elle, les églises de cette ville et même de ce pays. Seigneur, nous te remettons l'église même de ce pays afin que, Seigneur, nous nous accrochions à toi, que nous, au milieu des tempêtes, Seigneur, au milieu des temps difficiles, au milieu Des lois qui sortent chaque fois pour rendre notre liberté plus réduite, Seigneur. Nous voulons croire que tu nous donnes, Seigneur, d'être attachés à toi et de ne jamais fléchir notre foi et de plutôt fléchir les genoux devant toi et attendre que toi, tu nous conduises, que tu nous renouvelles. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les familles. Merci pour nos bien-aimés qui sont ici et pour tout ce que tu vas faire encore dans ce ministère. Nous croyons, Seigneur, que tu renouvelles ce ministère. Seigneur, tu lui donnes d'avoir des dimensions nouvelles. Tu lui donnes d'être encore plus, Seigneur, cette église missionnaire qui touche des vies, qui touche des cœurs. Et ici, même cette mission qui commence ici à Angers et qui s'étend de partout le monde. Merci, Seigneur, pour ta bonté envers nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen.